De l'œuf d'homme à la règle du jeu, j'y suis passé à peu près insensiblement. La règle du jeu s'est fait autrement, mais c'est la même veine que l'âge d'homme. Ça ne représente pas du tout le départ vers quelque chose de nouveau, comme l'avait été pour moi l'Afrique fantôme en son temps, et puis l'âge d'homme, justement. C'est la reprise de cette recherche autobiographique, qui d'ailleurs, il faut bien s'entendre, quand je dis autobiographie, ça ne veut pas dire du tout le plaisir de raconter ma vie. C'est plutôt découvrir, si possible, qui je suis, ce que j'aime, ce que je fais, ce que je préfère faire, ce que je suis, en somme. Eh bien, la règle du jeu prend en ce sens la suite de l'âge d'homme. Ce qui m'est apparu, c'est que dans l'âge d'homme, j'avais abordé, fait le domaine érotique, qui me paraissait, qui me paraît encore d'une importance capitale, mais qu'à ce moment-là, j'avais peut-être tendance à considérer un petit peu trop comme la clé de tout, ça sous l'influence de Freud, ayant été psychanalysé, ou ayant déjà lu Freud, puisque j'ai commencé l'âge d'homme, la toute première version, je crois que c'était avant d'être psychanalysé, mais enfin, j'avais lu un peu Freud, je savais de quoi y retourner. Ce qui m'a semblé, c'est qu'il fallait que cet examen de moi-même, que je le fasse pour d'autres domaines qui avaient été laissés de côté, presque entièrement laissés de côté dans l'âge d'homme. C'est pourquoi vous constaterez que dans la règle du jeu, il y a un thème qui disparaît presque, c'est le thème érotique, et puis en revanche, un thème qui apparaît, le thème politique. Si vous voulez, ce que je considère est loin d'être le seul. Beaucoup de surréalistes ont pensé comme moi. Il y a vraiment deux très grands génies de notre époque. C'est Karl Marx, d'une part, qui s'est rendu compte de l'importance absolument déterminante, capitale, des facteurs économiques. Et puis, d'autre part, Freud, qui s'est aperçu de l'influence également capitale du facteur sexuel. Toutes choses sur lesquelles les idéalistes auparavant avaient toujours jeté un voile pieux, enfin parce que le sexe et puis les besoins matériels, ce sont des choses qui ne sont pas tenues pour jolies, qui sont tenues pour des choses basses.
Michel Léris, il a toujours été toujours partant dans toutes les aventures révolutionnaires. Il a été partant pour l'Union soviétique, il a été partant pour la Chine, il a été partant pour Cuba. Et c'est sûr, ça faisait partie de sa générosité. Il ne veut pas du tout se poser comme un théoricien de la révolution, comme un penseur, comme un intellectuel de gauche qui penserait. Il est ni Aragon, ni Sartre, ni Breton. Il est celui qui s'engage. Il ne répugne pas à l'engagement. On a eu des conflits là-dessus d'ailleurs. Qui s'engage pour ce qu'il a décidé être une fois pour toutes la bonne cause, c'est-à-dire en gros les idées de gauche, quoi. Mais il ne brigue jamais un poste d'apparatchik intellectuel ou des choses de ce genre.
Je crois que la chose primordiale pour un pays sous-développé qui passe enfin à l'état de développement, c'est d'organiser la recherche sur son propre pays. Bien sûr, la recherche ne peut pas se limiter à cela, mais il me semble que la chose qui importe en tout premier lieu, c'est qu'on connaisse d'abord
toutes les ressources naturelles du pays, tout ce qui peut être mis à profit, exploité, et également qu'on s'occupe des ressources culturelles. Bien sûr, il y a eu des prospections qui ont été faites, même à l'époque coloniale, sur les ressources naturelles. Mais ces prospections ont toujours été très limitées par le fait que le colonisateur s'intéressait aux produits dont il pouvait tirer profit et négligeait tout le reste. Ça n'était en aucune manière un inventaire complet. Je crois qu'un pays sous-développé, qui est en train de se développer, l'une de ses tâches principales, c'est de procéder à l'inventaire complet de ses richesses. Et j'entends bien par richesse, les richesses naturelles, aussi bien que les richesses culturelles, qui ne doivent, à mon avis, être en aucune manière négligées. Par la sociologie et par l'ethnologie, bien sûr, s'agissant de recherches culturelles. Ce que je crois, c'est que, si l'on considère deux niveaux, ce que j'appellerais enfin le niveau tactique, c'est-à-dire celui de l'immédiat, et le niveau stratégique, c'est-à-dire enfin un futur plus lointain. Je pense ici à ce que Jacqueline Delange disait tout à l'heure, quand elle a parlé, elle a fait allusion à l'homme intégral, dont on se préoccupe beaucoup à Cuba, l'homme intégral qui sera l'homme nouveau, né de la civilisation communiste. Il me semble, et là je reprendrai ce qu'elle a dit, alors vous savez peut-être que nous travaillons ensemble et très extrêmement en accord, je reprendrai ce qu'elle a dit et je dirai que, à mon sens, la civilisation de l'homme intégral devrait être non seulement une civilisation universelle, mais une civilisation dans laquelle se trouverait repris, intégré au nouveau contexte, tout ce qu'ont pu produire de valable les diverses civilisations ou les diverses cultures qui se sont manifestées dans le monde. Il y a des exemples assez simples à donner, d'éléments traditionnels qui ont été réutilisés dans un autre contexte. Par exemple, j'étais en Chine populaire en 1955. Et j'ai vu, et je crois que c'est encore pratiqué maintenant, j'ai constaté en visitant des hôpitaux que l'acupuncture, qui est une méthode, une thérapeutique chinoise absolument traditionnelle, on peut dire oui, millénaire, eh bien l'acupuncture est encore employée dans les hôpitaux chinois, mais seulement rationalisée, c'est-à-dire au lieu de la mettre à toutes les sauces, si j'ose dire, on l'emploie dans des cas où elle peut vraiment être utile. Dans ces mêmes hôpitaux, j'ai vu toujours une double pharmacie. Il y avait une pharmacie moderne et une pharmacie traditionnelle, contenant toutes sortes de racines, de feuilles, enfin de remèdes de bonne femme, qui étaient rationnellement expérimentés. C'est-à-dire on les employait pour voir et retenir ceux qui méritaient d'être retenus. Il y a aussi le yoga hindou, qui, débarrassé de sa mystique, a donné cette méthode maintenant courante en psychothérapie, qui est la relaxation. Il me semble qu'on pourrait faire la même chose avec bien d'autres éléments culturels. J'ai noté aussi, puisque justement je parlais à Cuba, et que ces cultes d'origine africaine y ont encore une certaine importance, sont encore assez vivants, j'ai constaté, étant spécialiste enfin de ces cultes à base de possession, que l'espèce de théâtre vécu auquel il donne lieu n'est pas sans présenter des rapports avec le psychodrame. Qu'après tout, ces cultes débarrassés de tout leur côté mythique, enfin débarrassés, disons, de leur dieu, pourraient être orientés vers le psychodrame de façon très fructueuse. Parce que moi, je pense d'ailleurs, d'une façon générale, et je dis ça sans le moindre humour, qu'il doit être excellent pour l'équilibre psychique d'être à même de pouvoir, sans honte et de façon institutionnelle, se mettre en transe de temps en temps. Je pense qu'un des malheurs de nos civilisations, c'est que les fêtes sont devenues des choses horriblement mornes, alors qu'en Afrique, et également en Amérique du Sud et aux Antilles, avec le carnaval, elles sont restées des fêtes extrêmement vivantes dans lesquelles l'individu enfin, peut vraiment se défouler, trouver une satisfaction pleine et entière, et même, et c'est ce qui se passe, je crois, pour le carnaval, peut-être même arriver à vivre toute son année sur ce plaisir prodigieux qu'il aura pendant quelques jours.
Et du défoulement, on arrive vite à Freud.
Bien sûr. Ça, je crois que Freud en fait quelqu'un d'absolument considérable. Et lui aussi, je le citerai volontiers, comme exemple d'homme qui a su reprendre, en les modernisant, des choses de tradition ancienne. Quand il a fait l'analyse des rêves, ben mon Dieu, à son époque, on ne s'intéressait au fond qu'au mécanisme du rêve. On avait complètement oublié que le contenu des rêves est intéressant. Le contenu des rêves, ça, c'était considéré, c'était une histoire de clé des songes, une histoire d'oniromancie. Lui, Freud, est revenu à ce contenu. Il est aussi revenu d'une certaine façon à la plus vieille mythologie grecque, avec le complexe Oedipe.
Quel serait le rôle des archives ? Vous parliez d'archives dans votre exposé, dans une perspective d'une telle culture.
C'est exact. Ce que je pense, c'est que bien sûr, une part énorme, même la plus grande partie de ces cultures traditionnelles, du fait que c'est lié à un certain état technique et économique, quand cet état technique et économique se trouve complètement bouleversé par le développement accéléré et qui est nécessaire aux pays du tiers-monde, évidemment, ces cultures traditionnelles sont complètement bousculées. Et peut-être, c'est en tout cas moi ce que je souhaite, peut-être, et c'est à l'appui de cela que viennent les quelques exemples que j'ai cités, peut-être quelques éléments peuvent être réemployés sous d'autres formes, se trouvant intégrés au contexte nouveau. Mais en tout cas, ce qu'on peut, c'est en établir les archives, pour qu'elles ne soient pas tout à fait perdues, qu'au moins on sache qu'à tel moment de l'histoire, enfin d'un pays déterminé, on procédait comme ceci, comme cela, il y avait telle coutume, enfin tel rite, tel art, etc. Et je pense aussi que pour le pays intéressé, c'est extrêmement important de savoir cela. D'abord parce que cela va à l'encontre, cela ne peut que débarrasser les gens du complexe d'infériorité qui leur a si souvent été inoculé par les colonisateurs. Cet état d'esprit qui consiste, ou qui a consisté, à considérer que c'était la culture du colonisateur qui était la vraie civilisation, et qui faisait que beaucoup d'intellectuels, même à un moment donné, on peut dire presque tous les intellectuels, n'avaient que mépris pour leur propre culture. Eh bien, en faire les archives, c'est tout de même montrer, faire ressortir ce que ces cultures traditionnelles pouvaient contenir de valable, et le faire savoir à tous les gens du pays considéré. D'autre part, comme je crois, je vous l'ai dit déjà, il me semble que dans cette culture, culture intégrale du fameux homme futur, tout ce qu'il y a de bon des diverses cultures humaines devrait être en principe, je dis bien en principe, récupéré, eh bien, constituer des archives, ça ne peut que servir ce dessein. Quand on parle de culture, il y a ce malentendu terrible, c'est que le sens commun du terme désigne la culture avec un grand C, c'est-à-dire une petite partie de la culture réelle, et celle qui est l'apanage d'une classe privilégiée. En tant qu'ethnologue, quand je parle de culture, j'entends quelque chose de beaucoup plus vaste. Enfin, on peut dire que la culture, c'est tout ce qui n'est pas nature. C'est tout ce qui n'est pas donné à l'homme par la nature. C'est tout ce qu'il a appris dès sa naissance, tout ce qu'il a appris par imitation, par enseignement direct. C'est aussi tout son environnement intellectuel, tous les usages de la société dont il fait partie, les croyances de cette société, les modes de pensée, les façons d'être de cette société, même certains gestes, certaines expressions du visage, qui sont des choses qui existent dans une société donnée et qui n'existeront pas forcément ou pas avec la même signification dans une autre. Bref, c'est quelque chose qui dépasse de très loin la culture, enfin au sens strict, au sens commun, et qui est en somme le soubassement, même pas le soubassement, mais l'ensemble dont la culture, avec un grand C, n'est qu'une sorte d'efflorescence.
Au congrès culturel de la Havane en janvier 68, Michel Léris avait été invité à prononcer une conférence sur la recherche scientifique, et c'est ainsi qu'il résumait son intervention au micro de Roger Pillaudin. Pour Michel Léris, signe de vie. En avril 69, aux semaines cubaines de Grenoble, après sa conférence sur le thème « Qu'est-ce qu'un art et une littérature révolutionnaire ?», Michel Léris répond aux questions des auditeurs.
Soit on a parlé de la culture révolutionnaire. Je trouve que cette culture-là, c'est toujours une culture qui sort d'un esprit individuel. C'est-à-dire, ce n'est pas socialiste. Je crois qu'un paysan ne peut pas comprendre un tableau de Picasso ni un roman de Kafka.
On dit. Ah, mais là, je vous arrête tout de suite. Oui, s'il ne comprend pas le tableau de Picasso, ben c'est parce que. C'est très simplement parce que il n'en a pas vu et qu'on ne lui a pas expliqué. C'est tout. Mais enfin, alors, vous allez considérer ce paysan comme un pauvre idiot, incapable de comprendre un tableau de Picasso. Mais pas du tout. Enfin, c'est là précisément, c'est là que l'éducation joue un rôle. S'il a eu assez d'opportunités, enfin, de voir des tableaux de Picasso, puis quelqu'un qui lui dit un petit peu de quoi il s'agit, et si également il a lu, bien sûr qu'il ne pourra pas lire tout de suite un livre de Kafka, mais qu'il ait lu d'autres choses, enfin qu'il achemine vers Kafka, mais il n'y a absolument aucune raison de penser qu'il n'y comprendra rien. Mais ça l'intéressera
bien
pas.
Sûr, bien sûr. Alors, dedans une révolution, il faut faire aussi une culture qui est révolutionnaire, ne parle pas de révolution. Cette culture-là que vous dites, c'est une culture qui veut faire de la propagande vers les autres pays qui ne sont pas socialistes, ou bien c'est une culture qui va vers des hommes comme des intellectuels qui peuvent comprendre ça, qui peuvent comprendre.
Mais j'ai jamais rien dit de tel.
Ce n'est pas une culture socialiste.
Excusez-moi, mais j'ai rien dit de tel. J'ai dit qu'il y avait nécessité pour la révolution d'avoir un certain art et une littérature de propagande. C'est entendu. Mais j'ai dit aussi qu'il fallait, je n'ai pas dit d'ailleurs un art et une littérature pour intellectuels, mais un art et une littérature parfaitement libre.
Oui, exactement, c'est une art libre, mais qui ne sort pas d'un esprit individuel.
Mais par définition individuelle.
Ce n'est pas socialiste, enfin, quelle est la participation des masses ?
Le socialisme, c'est fait avec des individus, ou c'est fait avec quoi ?
Bien sûr, mais des individus qui parlent dans un monde qui ne peut pas être compris de les masses, qui ne peut pas être compris des ouvriers, des paysans.
Il faut un effort énorme.
Ce n'est pas socialiste,
il faut un effort énorme pour se faire comprendre des masses. Et à mon avis, enfin, des socialistes qui ne font pas cet effort vers les masses, et pour non pas pour se mettre à leur portée, mais pour leur faire connaître enfin ce qui est bien, eh bien, ce sont des gens qui méprisent le peuple et qui font du travail contre-révolutionnaire.
Je crois que je vais finir, mais je reste ma opinion. Pour moi, une culture comme ça, c'est une culture qui parle de l'évolution, ça fait de la théorie évolutionnaire, mais ce n'est pas révolutionnaire.
Bon, libre à vous.
Jean Jamin, vous êtes en charge de l'établissement du texte du journal de Michel Léris. Vous souvenez-vous dans quelles circonstances vous l'avez pour la première fois eu entre les mains ?
Ben, écoutez, oui, je crois que tout le monde savait que Michel tenait un journal, que Michel Léris tenait un journal. Il le décrit assez longuement dans Fourbi et ensuite, et avant même dans Bifur, où il parle de ce journal qu'il tenait donc depuis 1922. Il l'a tenu par intermittence de 1922 jusqu'à 1989. Malheureusement, il n'a pas été possible. Le journal s'arrête le 7 novembre 1989. 3 jours après, Michel Léris sera victime d'un accident cardiaque. Il sera hospitalisé à l'hôpital américain et il restera une quinzaine de jours dans le service des soins intensifs. Et après, il ne reviendra plus jamais sur ce journal. Donc il s'arrête le 7 novembre 1989. Et la dernière phrase qu'on a pu lire, ou que j'ai pu lire, le premier membre de la phrase est totalement illisible, son écriture est très difficile, il ne sait pratiquement plus écrire, dû à la maladie qu'il avait à l'époque. Et les seuls mots que j'ai pu déchiffrer, c'est « ne vient que de moi ». Je trouve ça absolument superbe. Terminer son journal là-dessus, ne vient que de moi. Ce journal, j'en ai eu connaissance physiquement, matériellement, en 1979, le 19 septembre exactement. Michel Léris avait été victime, au moment de ses vacances en Suisse, d'un petit malaise. En 1979, Canveller était mort en janvier, donc il y avait eu d'autres problèmes, des problèmes de succession à régler. Et il souhaitait à ce moment-là régler ses propres problèmes de succession, donc de passer devant le notaire. Il m'avait demandé, le 19 septembre 1979, si j'acceptais d'être, comme on dit, son exécuteur littéraire. Et à ce moment-là, peu de temps après, je veux dire que j'étais très honoré de cette proposition, puisque, comme vous le savez, Michel Léris n'avait pas d'enfant. Et je lui ai donc dit que j'étais d'accord, et suite à quoi il m'a montré où se trouvaient ses manuscrits dans son appartement et principalement son journal. L'établissement du journal est difficile au sens où il y a tout un système de renvoi très compliqué, de sorte qu'on n'a qu'une vision, enfin dans une première lecture, en tout cas pour certaines années, et pour ces années-là, c'est très important, enfin pour ce moment-là, c'est très important. J'en ai pas une vision cohérente, si vous voulez, parce que le texte n'est pas, ce qu'on a vu là, linéaire. Enfin bon, il y a des tas de bifures, de ratures qui renvoient dans d'autres cahiers, à d'autres pages. Enfin, donc l'établissement du texte du journal est assez compliqué de ce point de vue. Enfin, il faut être très attentif, et ça n'est que lorsque je l'aurai établi que je pourrai vous dire effectivement si le point de vue diffère ou pas, mais ça m'étonnerait qu'il diffère. Enfin, généralement, si vous voulez, son journal était utilisé comme un journal de notes de premier jet, et ensuite il faisait des fiches à partir de cela, et ensuite se mettait à la rédaction proprement dite. Mais ce n'est pas un journal intime au sens où on aurait, là, vous voyez, un discours parfaitement linéaire. Ce n'est pas du tout ça. On a plutôt affaire à des... Ce que lui reprochait un tout petit peu, du reste, son examinateur pour la langue secrète, ce qu'il lui reprochait, c'était de procéder par explosion de pensée. On peut dire que le journal est une suite d'explosions de pensée. Voilà. Où il y a beaucoup de... C'est une écriture assez aphoristique, disons. Et ça peut être assez surprenant, d'ailleurs, enfin, par rapport à cette écriture très linéaire, enfin, très... Enfin, non pas linéaire, mais cette écriture très travaillée, très... qu'il a dans son œuvre, le journal, la surprend énormément, comme l'Afrique fantôme surprend, du reste, enfin, par rapport à l'âge d'homme. L'écriture du journal est très cursive, très allusive aussi, parfois, ce qui est parfois aussi compliqué pour savoir à quoi il fait allusion exactement. Il y a parfois de très longues interruptions, il y a curieusement des moments qui ne sont pas notés, comme par exemple 1968, alors que la libération de Paris est longuement décrite. 1968, mai 68, où Michel Léris a été actif, a joué un rôle, puisqu'il a fait partie, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, il a fait partie de l'équipe qui a occupé au Musée de l'Homme, sur les terrasses du Musée de l'Homme, l'appartement qui était à l'époque appartement de fonction dans lequel habitait Madame Fouché, la femme du ministre de l'Intérieur. Alors, ils ont occupé cet appartement en 1968, en mai 68. La seule chose qu'on puisse lire dans son journal sur 68, c'est... mois de mai, c'est simplement cette phrase assez laconique et sibylline en même temps. 1968, dit-il, écrit-il, pour moi, année de la vieillesse, littéralement touchée du doigt.